L'heure de pointe, Anne-Rose Jankovic.
Bonsoir à tous, bienvenue dans l'heure de pointe, c'est la fin de la semaine et nous nous retrouvons pour notre magazine hebdomadaire consacré ce soir à la culture et au patrimoine local puisque nous allons découvrir le charmant village de Campan et en particulier l'histoire des mounaks, ces poupées qui font la fierté de la haute vallée de l'Adour. Alors j'ai l'immense joie de retrouver en ce début de l'année 2024 Gérard Crozat et Andy Barégeau, bonjour à tous les deux.
Bonjour,
bonjour.
Alors, un petit rappel, bonne année à vous deux et un petit rappel, Gérard Crozat, vous êtes diacre dans le diocèse de Tarbes-et-Lourdes. Vous êtes aux côtés de Radio Présence depuis de nombreuses années. Et Andy Barégeau, vous êtes journaliste au journal La Dépêche Nouvelle République. Voilà, alors bonne année et merci d'être là encore en 2024 pour cette émission. En merci. Face de vous, nos deux invités de la semaine qui ont pris place, Claudine Pécondon. Bonjour à vous. Vous êtes la présidente de l'association Mounak et Compagnie. Et Marie-Josée Thomas, vous avez été présidente de l'association Les Marioles et vous êtes encore très engagé pour faire perdurer cette tradition des mounaks de Campan. Bonjour à vous et merci à toutes les deux d'être là. Alors, on va commencer comme chaque semaine par un petit tour d'horizon, de l'actu de la semaine. Vous allez nous dire, Andy et Gérard, ce qui vous a marqué cette semaine en ce début d'année 2024. Qu'est-ce que vous retenez de l'actualité? On commence avec vous, allez Andy, cette semaine.
Ah, j'étais pas prêt du coup. Je m'attendais à ce que ce soit Gérard.
Bah oui, c'est toujours Gérard. Alors, eh bien, oui, mais je change les habitudes.
J'en profite, c'est une révolution. Non, moi, ce qui m'a marqué justement, c'est... En cette année, c'est peut-être un petit signal encourageant, en l'occurrence pour notre territoire, c'est la bonne fréquentation des stations de ski qui pourtant n'étaient pas dans des conditions d'enneigement, on va dire, optimales pour ces vacances. Ce qui est un peu le lot quotidien sur ces vacances de Noël, qui sont rarement les plus enneigées, contrairement à février. Mais c'est vrai que malgré ça, les domaines ont fait le plein, force est de constater, un petit peu partout. Donc vous l'avez sans doute vu, mesdames, en Haute-Bigorre, il y avait du monde. Alors beaucoup de gens qui ont profité du ski, beaucoup de gens tout court qui ont profité de nos montagnes, beaucoup de gens... autour du lac de Payolle, enfin tous les sites ont vraiment fonctionné et ça prouve finalement que la destination Pyrénées, la destination montagne s'ancre maintenant dans un peu de l'imaginaire, un peu des vacances globalement et on peut s'en réjouir. Alors jusqu'à faudra peut-être se poser les bonnes questions aussi de la surfréquentation à un moment, mais c'est vrai que là, en termes d'impact économique, c'est quand même des choses qui sont bien perçues et qui entraînent quand même beaucoup d'activités et beaucoup d'emplois, et ça, on peut s'en réjouir à l'aube de cette nouvelle année. Donc voilà, c'est un signal encourageant, puis je pense que si ces vacances ont bien fonctionné, ce sera le lot aussi des prochaines, avec les chutes de neige qui ont un peu blanchi tous les sommets depuis quelques jours. Donc c'est vrai que à grand renfort d'images sur les réseaux sociaux et tout ça, ça contribue à mettre en avant tous les domaines et qui seront sans doute dans leurs petits souliers là, pour accueillir tous les touristes et tous les skieurs, puisque là il y aura plus de skieurs d'ici 5 semaines maintenant.
En tous les cas, c'est vrai qu'on voit que depuis quelques années, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits pour accueillir les touristes, les familles notamment. Même quand il n'y a pas de neige, il y a un tas d'autres activités qui sont proposées, qui sont sympas, qui permettent aux personnes de se rassembler et de passer des belles journées, même sans neige en fait.
De plus en plus, c'est vrai que les investissements maintenant, ils sont tous pensés pas seulement à l'aune de l'hiver. C'est vrai que beaucoup, on voit ici des stations comme par exemple le Haut-Akam qui n'avait pas de neige mais qui a quand même pu ouvrir. Alors qu'il y a 10 ans, pas de neige, pas d'activité. Donc c'est vrai que c'est une évolution qui sans doute profite à tout le monde.
Vous skiez les uns et les autres? Quand on est à Campan, on profite.
J'ai skié, puis depuis le Covid, on a arrêté. Et maintenant, on n'a plus trop envie de s'y remettre.
Hein. Assez difficile de s'y remettre aux activités.
Ouais. Ouais. C'est une coupure. Sinon, voilà. Quand on habite à Campan, le ski, ça paraît évident.
Et oui, bien sûr. C'est comme le vélo,
mais
finalement.
Après,
c'est...
on peut faire des raquettes. Maintenant, on ne fait plus de ski, mais on fait des raquettes. On se promène dans nos Pyrénées... avec les raquettes aux pieds quand il y a la neige.
Voilà, en fait, il y a plein
d'activités
possibles.
Il y a tellement de randonnées à faire.
Hein. Et oui, tout à fait, tout à fait. Gérard Crozat.
Je n'ai jamais skié de ma vie.
Jamais trop tard.
C'est pas possible.
Oh, c'est, non, c'est pas à 70 ans que je vais me mettre à faire du ski. Mais... Non, je ne suis pas sportif du tout. Je suis trop paresseux de ce côté-là, je l'avoue.
Et pourtant, vous êtes vrai, vous êtes bigourdan, vous êtes né ici, dans les Hautes-Pyrénées.
Je suis né à Tarbes et je contemple les Pyrénées, mais je les laisse aux autres.
Beaucoup de locaux ne skient pas, d'ailleurs. C'est aussi un des enjeux pour l'avenir des stations, c'est d'arriver à attirer et à faire que, notamment les jeunes d'aujourd'hui et qui seront les skieurs de demain, chaussent leur premier ski. Quoi,
ouais.
J'ai des confrères diacres qui sont des moniteurs de ski. Même, et qui font du ski, j'allais dire professionnellement. Non, ce n'était pas leur profession, mais d'une manière assidue. Mm-hmm. Et je les contemple, mais je ne les suis pas.
Et vous skiez, vous, Andy ?
Un petit peu.
Bon, mais c'est vrai que je vous rejoins, Madame Pécondon, il faut se motiver quand même pour aller skier. Hein.
Oui.
Le matériel, l'équipement, le beau temps, et puis le prix. Alors oui, le beau temps, effectivement, quand on voit les enfants qui sont avec le ski club, eh bien, quand ils sont inscrits.
Ah
hein,
oui,
s'il pleut, il faut y aller quand même.
Quel que soit le temps. Hein.
Ah oui, vous voyez, Gérard Crozat.
La visibilité pas très bonne, s'il neige.
Il faut y aller.
Mais en fait, les gamins, ils sont motivés.
Oui.
Oui. C'est plutôt une punition s'ils ne pouvaient pas y aller.
Alors voilà pour ce sujet ski qui est important pour nous dans les Hautes-Pyrénées et puis chez nos voisins aussi. Alors Gérard Crozat, vous aviez de votre côté un thème qui est un petit peu lié. Je crois que vous vouliez nous parler des températures.
Oui, du froid. Alors je partage la joie d'Andy et je suis heureux de voir comment nos Pyrénées peuvent devenir de plus en plus un pôle d'attraction. Moi, je voulais juste dire, j'ai entendu à la radio ce matin que un homme et une femme sont morts de froid cette nuit en France. Je me suis fait la réflexion que nous sommes en 2024. Mmh. Ça veut dire qu'il y a juste 70 ans, l'abbé Pierre a lancé
l'appel
l'appel pour... pour aider tous ceux qui sont qui ont froid. Et il y a de plus en plus qui ont les sans-abri, tous ceux qui ne peuvent pas se chauffer pour une raison ou pour une autre, parce que c'est cher, etc. Et je me dis, est-ce que ça veut dire qu'on va toujours marquer l'anniversaire de cet appel par des morts, ou bien va-t-on trouver des solutions Alors je ne sais pas lesquels, je ne suis pas compétent, mais certainement qu'il y a quelque chose à faire. Et lorsque je rentre chez moi dans le chaud, tout de même si je ne dépasse pas les 18 degrés recommandés, mais dans le chaud, je me dis il y a des gens qui ne sont pas dans ce confort-là, et voilà. Il faudra sans doute se donner un moyen. J'entendais ce matin à France Info. Pour la voiture, c'est quand même plus pratique que la dépêche.
Mais ce sont des confrères.
On tolère.
J'écoutais le président de la Fédération des acteurs sociaux qui disait justement, voilà quoi, enfin, posons-nous les vraies questions maintenant, au lieu de dire un tel, il est pauvre, il ne doit pas l'être, ou un tel doit être exclu, ou un tel doit repartir chez lui, etc. Disons-nous, qu'est-ce qu'on fait pour qu'il n'y en ait plus ?
Oui, mais cette question-là, on se la pose souvent. L'abbé Pierre l'a posée il y a 70 ans, mais c'est une question qui revient tout le temps.
Tout le temps.
Il y a des associations, c'est une promesse, des politiques, des associations.
Et c'est ça qui est révoltant. C'est qu'on n'arrive pas... Les moyens, je crois qu'on doit pouvoir les trouver. On doit pouvoir les trouver.
Ils existent. Et les moyens existent, je pense, mais on ne se les donne pas, les moyens.
On ne se les donne pas.
Mais c'est une vraie question, y compris localement, hein, parce que c'est vrai que les centres d'hébergement ici sont aussi actuellement dans leur capacité maximale.
Parce qu'en fait,
quoi,
on sait faire, il y a des structures, il y a des moyens, mais il n'y en a finalement pas assez par rapport à la demande, aux besoins.
Là, c'est le président de cette fédération disait ce matin que justement, le problème, c'est qu'à partir du moment où la température remonte un peu, on leur dit de partir. Parce qu'ils ne peuvent pas garder les gens. Et voilà. Bon, alors c'est très beau hein, de jouer l'offusqué comme je le fais, mais je ne résous rien. Mais c'est quand même une question parce qu'il fait froid et voilà, deux personnes sont mortes cette nuit.
Merci Gérard Croza. Alors de mon côté, eh bien, je voulais mettre l'accent sur un sujet qui m'a un petit peu touchée, interpellée, qui nous fait sortir un petit peu des Hautes-Pyrénées et de notre région. Ça se passe dans le nord de la France. Ces personnes qui ont été... Bah oui, vous grimacez Gérard, mais il fait bon vivre aussi dans le nord.
Tout à fait.
Enfin, il fait bon vivre. Ces malheureuses personnes qui ont été inondées au mois de novembre, qui ont été à nouveau inondées. Et j'étais très, très frappée d'entendre des témoignages de ces personnes-là toute la semaine là, aux informations. Alors, de dire, on a tout perdu une première fois. On avait à peine tout nettoyé, tout remis en ordre. On avait à peine commencé à retrouver de l'espoir que, rebelote, on repère tout. Et puis le gel arrive et ça risque d'être encore pire que ce qu'on a là. Et j'ai été très, très édifiée de voir le courage de ces personnes-là. Et de dire, c'est comme ça. Et on va se retrousser les manches, puis on va recommencer. Et puis ça va recommencer, ça nous arrivera encore. Eh bien, on se retroussera les manches et on recommencera. Et je me suis dit, mais quelle leçon! Quelle leçon de courage, d'abnégation, de volonté, et puis l'entraide aussi que ça suscite. C'est vraiment étonnant, en fait, c'est ces personnes-là qui ont tout perdu, certains leurs entreprises ou leur maison, voire leur entreprise et leur maison, et qui disent, on va recommencer, et puis on va se retrousser les manches, puis on va aussi aller aider les voisins. Moi, j'ai été vraiment bluffé par ça et je voulais partager avec vous ce regard.
C'est vrai que c'est dans ces moments-là où on arrive à retrouver notre dignité humaine et de dire il faut que je me batte avec d'autres.
Et c'est dommage qu'il faille attendre ça.
Oui, exactement. Là, exactement.
C'est souvent dans ces situations-là, mais c'est malheureusement souvent que dans ces situations-là. C'est un peu le regret.
Oui, tout à fait.
Et on peut rendre hommage aussi à tous les sapeurs-pompiers, hein. Qui en veulent.
Oui.
Alors on va dire, bon, c'est normal, c'est leur travail, la preuve c'est qu'on a acheté leur calendrier, mais enfin, au-delà de ça, il y a surtout tout le travail, tout le dévouement dont ils font preuve tous les jours.
Et les élus aussi, qu'on peut, les élus des petites communes qui se retrouvent souvent les premiers à éponger et à subir un petit peu le courroux de ces gens. Comprend légitimement, mais ils sont autant sinistrés que les autres.
Oui, et puis c'est vrai que
c'est pas simple pour eux.
Dans les petits villages, la première personne qu'on appelle, c'est quand même le maire. On est inondé, on appelle le maire, on a besoin.
Reportage, c'était les premiers à mettre les bottes.
Ouais, exactement.
Les pauvres, en fait. C'est pas un métier, maire. Donc c'est vrai que c'est compliqué pour ces gens-là. C'est vraiment un vrai investissement pour les autres.
Tout à fait. Eh bien, merci à vous pour ce tour d'horizon de l'actu de la semaine. Alors on va marquer une petite pause et puis on va se retrouver donc pour notre sujet de la semaine, patrimoine et culture locale. Nous parlons des Mounacs. On se retrouve après la pause.
I've always known since I was a young boy. In this world, everything's as good as bad. Now my father told me always speak a true word, and I have to say that is the best advice I've had. Because something burns inside of me, it's everything I long to be, and lies they only stop me from feeling free. Whoa, like a hobo from a broken home, nothing's gonna stop me. Like a hobo from a broken home, nothing's gonna stop me. Now my mother
Some may praise you just to get what they want. And I said, Mama, I am not afraid. They will take what they will take. And what would life be like without a few mistakes? Yay! Like a hobo from a broken home, nothing's gonna stop me. Like a hobo from a broken home, nothing's gonna stop me. Oh, like a hobo from a broken home, nothing's gonna stop me. Like a hobo.
L'heure de pointe, Anne-Rose Jankovic.
Allez, cette semaine dans l'heure de pointe, nous parlons patrimoine, nous parlons culture locale avec ce sujet qui va sûrement vous intéresser, les mounaks de Campan. Et nous en parlons avec nos deux invités, donc je le rappelle, Claudine Pécondon et Marie-Josée Thomas. Merci à toutes les deux d'être là pour parler de ce sujet. Alors, pour situer un peu, pour les auditeurs qui sont un petit peu loin, Campan, c'est un village situé pas très loin de Bagnères de Bigorre, en direction des sites touristiques qui sont bien connus, les stations de ski de la Mongie, de Payolle, nous en parlions tout à l'heure. Les Bagnérais passent par Campan pour franchir le col d'Aspin et retourner, se retrouver en Vallée d'Or et du Louron. Bref, à Campan, il y a du passage. Et quand on traverse Campan, eh bien, il arrive que sur le bord de la route, on croise, on voit ces grandes poupées qu'on appelle donc des mounaks. Alors d'où ça vient, d'où sortent ces mounaks? Vous allez tout nous dire. C'est quoi l'histoire des mounaks?
Allez, Marie-Jo, qui est campanoise, va vous expliquer ça.
Marie-Josée Thomas.
Et je voulais aussi préciser que nous sommes sur la route du Pic du Midi, parce que vous n'en avez pas parlé.
Ben oui, c'est vrai.
Et c'est très important. Très important, parce qu'il y a pas mal d'étrangers qui passent par Campan pour aller au Pic du Midi
en particulier.
Voilà, non, c'est juste une petite précision.
Excusez-moi. Vous avez raison.
Voilà. Bon, après, les mounaks, en fait, ça vient d'une coutume très ancienne qui s'appelait le charivari. Le charivari, qui existait certainement dans d'autres contrées que Campan, c'était une coutume qui s'adressait à des nouveaux mariés, et surtout à des veufs ou des veuves qui se remariaient, ou à l'aîné de la famille qui se mariait avec quelqu'un qui était d'un autre village ou d'une autre ville.
Et, d'un étranger.
Et en fait, cet étranger, il n'était pas très bien vu par les jeunes du pays, surtout que l'aîné dans notre village, l'aîné héritait de la totalité.
Garçon ou fille. Les filles héritaient.
Oui.
Ce qui était très rare.
L'aîné héritait de la totalité du patrimoine familial. Donc, quand il se mariait avec quelqu'un qui n'était pas du coin, ça divisait les fermes, enfin, toutes les propriétés étaient divisées, donc ça ne plaisait pas.
Ça suscitait de la jalousie.
De la jalousie. Donc, en fait, les jeunes, à l'époque, c'était surtout les jeunes hommes, ils faisaient des espèces d'épouvantails en chiffon ou en paille, qui ressemblaient un petit peu aux futurs mariés, qu'ils accrochaient devant les maisons des futurs mariés. Et tant que le marié, c'était surtout le marié qui était sollicité, n'avait pas donné une certaine somme d'argent pour pouvoir aller boire un coup, comme on dit, et aller faire la fête, tous les soirs, ils faisaient leur charivari, c'est-à-dire avec les cloches, des casseroles.
Donc ils se mettaient devant la porte de la maison,
voilà,
et ils faisaient
du bruit. Voilà, ils faisaient le bazar.
D'accord.
Et ça n'était pas toujours apprécié, d'ailleurs, hein.
Mais alors, donc, ces mounaks, à l'origine, sont des caricatures. C'était, voilà. C'était pas gentil,
nous. Non, non, mais c'était pas gentil. Non, mais tout pas à fait. Tout. D'ailleurs, en fait, cette coutume, elle n'a pas continué parce que, justement, il y a eu des frictions et il y a eu certains problèmes dans des familles à cause de cette coutume, bon, qui paraissait peut-être normale aux gens du coin, mais pas du tout pour les gens qui venaient d'ailleurs.
Et ça, alors, ne se faisait qu'à...
Non, je pense que ça se faisait aussi un petit peu ailleurs parce que quand on en
le
parle...
Le charivari, mais pas les mounaks.
Mais pas les mounaks.
Voilà, pas les mounaks.
En fait, les mounaks, c'était des caricatures qui faisaient ressortir les défauts. Si une fille était enceinte, on lui faisait un gros ventre. S'il était bossu, s'il avait un défaut physique.
Oui, voilà.
Et littéralement, mounak, c'est poupée, ça, ça
oui, c'est une poupée. Oui, oui, une mounak en patois, une mounak, c'est une poupée, quoi.
Donc là, on est à quelle époque, là, on est dans
les années 1900, je pense, même avant. Parce que mon père, qui était né en 25, il a connu une ou deux fois, quoi, quand il était enfant. Mais après, ça a cessé parce que, comme je vous dis, ça a créé quand même des tensions dans les familles. Voilà.
Alors, mais ça a cessé, et voilà. Puis les Campanois ont quand même gardé cette histoire dans le cœur.
C'est une habitante de Campan qui était commerçante. Et cette dame est à l'initiative de beaucoup, beaucoup de choses à Campan. C'est Maryse Bouhiri, il faut la citer parce qu'elle a beaucoup de mérite.
Oui, c'est vrai.
Et qui s'est dit un jour avec les commerçants, à l'époque, il y avait beaucoup, beaucoup de commerce à Campan. Et entre commerçants, l'association des commerçants, ils ont décidé, pour animer la ville, de remettre au goût du jour les mounaks.
Mais gentilles, cette fois-ci.
Oui, très sympa. Et donc, au départ, les commerçants qui les mettaient à leur commerce ou qui les plaçaient. Et comme ça a eu beaucoup de succès, elle a créé cette association avec d'autres campanois.
Voilà, pour refaire vivre.
L'association des commerçants qui a commencé. Et après, Maryse Bouhiri, c'est elle qui est vraiment à l'initiative et qui avait fabriqué les premières mounaks avec Marie-Madeleine Ortega.
Alors, justement, je voudrais bien qu'on parle un petit peu de l'art de fabriquer des mounaks. Vous disiez que c'était des poupées de chiffon. Aujourd'hui, quand on traverse Campan, si on a la chance de repérer une mounak, c'est quand même classe. On voit qu'il y a du travail. Comment elles sont fabriquées?
Vous pouvez
nous parler
gentilles.
Un petit peu de ce travail artistique?
Il faut quand même préciser qu'à Campan, on a deux sortes de mounaks. On a deux associations. L'association des Marioles, où il y a une dizaine de bénévoles, sommes toutes à la retraite.
Une douzaine, oui. Oui.
Alors, 12 femmes qui nous occupent des mounaks. Mais il ne faut pas oublier les hommes qui sont derrière et qui nous aident. Ils nous aident pour les installer, ils nous aident pour faire tout ce qui est décoration. Voilà, donc on a quand
même un
support technique.
Parce qu'elles sont mises en scène aujourd'hui,
ces mounaks. On les met en scène. On essaie le plus possible de les rendre assez vivantes. Et on les met en scène. Et tous les ans, on essaie de changer les thèmes pour que les gens qui passent... Parce que il y a des personnes qui viennent tous les ans voir les mounaks.
Ouais.
On a un livre d'or et chaque année, ils nous disent, voilà, tous les ans, ils viennent. Voilà. Et donc, on a un gabarit, on fait des corps, et en fonction de taille enfant et taille adulte. On les remplit avec des chutes de laine des Pyrénées que l'on va chercher à Ciutat.
Ah oui, local.
Et après, on a...
Local. Donc, oui, c'est local.
On avait une personne qui nous faisait les visages, malheureusement, elle est décédée. Et donc, c'est la salariée de l'atelier des petites mounaks qui nous fait les visages.
Donc, il y a une personne salariée qui,
non,
aujourd'hui...
qui est à l'autre association, à Mounak et compagnie. Mais bon, comme nous avons beaucoup de liens, voilà, elle nous fait les visages parce qu'actuellement, on n'a personne à l'association des Marioles capable de nous faire des visages. Elle nous les fait sur notre demande. Et voilà, on lui dit, tu nous fais un homme, tu nous fais une femme, tu nous fais un grand-père, souriant, pas souriant. Voilà, cette année, elle nous a fait le visage du roi Charles avec de très belles oreilles.
Ça veut dire qu'il y a un vrai savoir-faire.
Il y a une technicité, tout à fait. Et après, pour les vêtements, on nous donne beaucoup de vêtements, mais on est amené aussi à composer des vêtements, à les faire. On a des couturières qui sont capables de nous faire des vêtements,
des
de les adapter, des personnes âgées qui cousent très très bien. Et on les adapte en fonction des thèmes. Alors, le plus difficile pour nous, quand même, maintenant, c'est de pincer les crèmes, de trouver des thèmes chaque année différents.
On n'arrive plus si vous avez des gens qui sont susceptibles de nous donner des thèmes. On va essayer.
Parce que alors, donc, c'est-à-dire que vous essayez aujourd'hui de créer des mounaks qui sont dans l'air du temps, qui correspondent à la vie d'aujourd'hui, mais vous gardez quand même en tête souhait de transmettre
toujours,
l'histoire.
On garde quand même toujours des mounaks traditionnels. Il faut un certain lieu très précis. Par exemple, on a un Carrefour du patrimoine qui est un musée. Mmh. Et là, on fait toujours des mounaks traditionnels. On fait le berger, on fait le faneur, on reste des thèmes très traditionnels. Après, on essaie de faire un peu d'humour. Cette année, on avait fait les boudins, qui étaient très laids. Voilà.
Oui, après, on avait fait aussi, quand il y avait le Covid, on avait fait l'hôpital.
Oui, pour rendre hommage aux infirmiers.
Hommage aux infirmiers, tout ça. On essaie de suivre un peu l'actualité. Quand ça a été en 2018, on avait fait le 100e anniversaire de la guerre de 14, 18, oui, oui. On avait mis des veuves. On avait,
Les 200 ans de Molière, voilà. On a fait un thème sur Molière.
Voilà, aussi.
Ou à Campin, on a une compagnie de théâtre, les Ailes du Théâtre, qui nous ont donné gracieusement des tenues,
des
vêtements de théâtre. Donc, on avait fait Le Médecin Malgré Lui, on avait fait Monsieur Jourdain, on avait fait Les Précieuses Ridicules.
On essaie de vous diversifier.
Après, on essaie de coller un petit peu au thème. Quand un artiste décède, on essaie de lui rendre hommage.
Alors, combien
cette année, on avait fait les Mexicains basanés.
En fait, ils sont déjà fabriqués. On en fabrique 3 ou 4 par an. Oui. Mais on a déjà un stock. Enfin, on utilise
on les
le stock
après,
parce que c'est très long de fabriquer une mounaque.
Alors, combien de temps on met
pour une semaine.
Et une semaine pour une mounaque.
Voilà. Et on a l'atelier que 2 fois par semaine. Donc, ça fait pratiquement un mois sur la durée pour faire une mounaque.
Ah oui, pour faire les cheveux, c'est très long de faire les cheveux.
Pour remplir le corps, il faut le coudre. Après, il faut que la salariée fasse que Magali nous fasse le visage. Et puis voilà. Et puis après, les cheveux en dernier. Où les hommes, ce sont des petites boucles que l'on fait autour des doigts et que l'on coud. Donc, il y a peut-être 150 à 200 boucles. Il faut les coudre l'une à côté de l'autre.
Non,
il faut les faire.
On ne s'imagine pas quand on va se promener. Travail.
Oui, non, mais les gens ne se rendent pas compte. Non, et c'est pour ça que nous sommes des fois très, très en colère après les gens qui nous les volent ou qui ne les... qui les détériore.
Ça arrive, ça.
Oui, ça arrive. Malheureusement, ça arrive. Alors, les gens, je pense que c'est pas dans un mauvais... je pense pas que c'est vraiment pour les détruire, mais je pense quand même que... Il y a des gens qui...
Il y a un manque de précaution.
Oui, mais un manque de respect. Non. Voilà,
un manque de respect
par rapport à notre travail. Mmh. Mais bon, c'est vrai, ils ne savent pas le temps qu'il faut.
Ce sont pourtant des voisins pas très envahissants,
non,
quand même.
Non,
très
non,
bruyants,
non,
hein, pour l'instant.
Mais c'est pas des campanois, forcément.
Pas obligatoirement.
Après, beaucoup de personnes qui passent dans le village, ils pensent que c'est chaque habitant qui fait sa mounaque ou qui la sort. Et donc, ils ne savent pas que derrière, il y a des bénévoles qui œuvrent.
Un travail de toute une année, quand même.
On est quand même des personnes d'un certain âge. Et le temps qu'on consacre à faire des mounaques, on ne le consacre pas à notre famille. Il faut bien se dire ça, quand même. C'est quand même beaucoup d'investissement. Et puis, nous, on les aime, nos mounaques. Donc,
oui,
on aimerait qu'on les respecte.
Oui.
Une année, on nous en a volé 7. Tout un thème. Et on avait fait un thème avec des enfants. On nous a volé tout le thème. Mais pour nous, 7 mounaques, c'est énorme, quoi. On ne peut pas les refaire l'année d'après.
Et non.
Une année, on avait fait Blanche-Neige avec les 7 nains. On a commencé à nous voler.
Dans
les nains, ça veut dire des visages spécifiques, des tenues spécifiques. La tenue de Blanche-Neige, c'est une bénévole qui nous l'a réalisée, qui était magnifique. On a commencé à nous voler des nains. Et 2 jours avant de rentrer les mounaques, on nous a volé Blanche-Neige. Mais ça nous fait mal au cœur. Et ça nous touche. C'est comme
un
membre de notre
poupées,
famille.
Quoi, en fait, c'est un peu... Oui, c'est
parce
vrai.
Parce qu'on les bichonne.
Parce qu'on est toute l'année.
Vraiment, on est
a
très
toute
affectés.
L'année dans le truc. Quoi.
Alors, quand on se promène du côté de Campan et qu'on s'arrête au musée, hein, moi, alors, je le dis, j'y suis allée il n'y a pas très longtemps et j'ai été assez bluffée de voir comment vous prenez soin de tout ça et puis comment vous expliquez aussi. Alors ça, c'est très important. Notamment... L'histoire de la vallée et l'histoire des habitants à la période où les mounaques étaient vraiment une tradition vivante et importante. Notamment, vous m'avez expliqué en aparté l'histoire du porteur du pic du Midi. J'aimerais bien que vous en parliez de ça, parce que c'est à la fois l'histoire d'une mounaque, mais c'est l'histoire de la vallée, des habitants.
C'est surtout l'histoire de beaucoup d'hommes.
Alors, ce serait peut-être intéressant que vous partagiez
Marie
ça.
Marie Joquet des Campins va vous raconter l'histoire des porteurs du pic.
Oula, bon.
Les porteurs du pic, qui étaient-ils, ces porteurs du pic?
Les porteurs du pic, c'était des hommes de la vallée, et surtout du haut de la vallée. Et surtout, c'était surtout des montagnards assez aguerris, parce qu'ils montaient depuis Artigues jusqu'au pic du Midi. Il n'y avait pas par des sentiers, mais des sentiers qu'eux seuls connaissaient. Il n'y avait pas de route, il n'y avait rien.
Et il n'y avait pas de cabine, hein, il faut bien...
Non, il n'y avait
pas
de cabine.
C'est pour ça qu'ils étaient obligés de monter.
Non, mais c'était très, très ardu. Hein. Ils le faisaient l'été ou l'hiver. Hein. Ils portaient les ravitaillements pour les scientifiques. Et moi, j'en ai connu quelques-uns. C'était quand même des gaillards, quoi, comme on dit chez nous. Hein.
C'est-à-dire qu'il y avait déjà les premiers scientifiques qui travaillaient.
Ils ont quand même monté les matériaux pour bâtir le pic.
Oui, pour bâtir déjà au départ.
Quand ils ont choisi le pic du Midi, il n'y avait aucun moyen d'accès. Donc, il fallait tout monter à dos d'homme.
Et donc, ce sont ces hommes qui ne faisaient probablement...
Ou de mules, puisque c'était le fameux sentier des muletiers.
Oui, les porteurs, c'était surtout... Enfin, il me semble que c'était surtout ceux qui portaient le ravitaillement pour les
observateurs. Et donc, sur le dos, ils avaient des sacs, des...
Une clé, sur laquelle ils pouvaient poser les...
Une clé, donc c'est comme une sorte de chaise en bois sur laquelle on charge de paquets, en fait, c'est ça?
Et ils étaient payés au poids qu'ils transportaient.
Alors, il faut quand même dire que ces hommes qui montaient à pied, en portant tout le ravitaillement, ils ne faisaient pas que ça. C'était pas leur métier,
non,
ça.
Non.
Ils étaient bergers.
C'était paysans. Oui, c'était des paysans du coin. Et après, ils n'avaient pas les tenues comme maintenant les montagnards. Hein.
C'est pour
ils
ça
avaient
que...
les vestes en cadis, les pantalons en cadis, vous savez, cette grosse laine épaisse, mais qui protège bien du froid et de la pluie également. Mais ils avaient des chaussures quand même correctes, je pense. Hein. C'est pas comme les Sherpas. Mais c'était quand même difficile. Très difficile.
Et c'est pour ça que vous avez à cœur de faire des mounaks aussi qui représentent les porteurs
du voilà, sud. Oui, qui transmettent une certaine...
Oui, il faut leur rendre hommage.
La difficulté quand même de vivre en zone de montagne quand même.
Oui, on dit.
Vous parliez tout à l'heure, vous aviez dit que vous étiez une douzaine de bénévoles. Retraités, les jeunes, qu'est-ce qu'ils pensent des mounaks? Est-ce que ça leur parle? Est-ce que certains s'investissent?
Après, nous, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'à Campan, il y a quand même beaucoup de jeunes qui commencent à s'installer, des jeunes couples, des jeunes familles, et que la plupart des jeunes qui s'installent nous sollicitent pour avoir une mounak. Ça veut dire qu'ils ne sont pas insensibles quand même à la mounak. Je pense que ça leur fait plaisir, ils sont contents.
C'est un premier pas, disons.
Oui. Voilà, après ils ont une vie professionnelle, ils n'ont pas...
C'est quand même un manque de temps, on le fait dans les après-midi. Quand vous travaillez, vous n'êtes pas là l'après-midi.
Ils ne sont pas insensibles au mounak quand même. Voilà.
Oui, il y en a qui arrivent et qui nous demandent une mounak, ils sont sympas.
Gérard Croza.
Oui, moi je suis admiratif de tout ça. À plusieurs niveaux. D'abord, les mounaks, ce sont des associations aussi. Ça veut dire que les gens du village qui se retrouvent et qui font vivre comme ça, en se retrouvant, même si c'est en cousant, c'est déjà fédérateur. Deuxièmement, c'est le respect de l'actualité. Et troisièmement, c'est le respect de la culture. Quoi. Mm. Et c'est vrai que si on enlève les mounaks à Campan, bon, ça sera toujours Campan, mais sans les mounaks.
C'est pour cette raison qu'on s'investit aussi pour que Campan ne meure pas, quoi, en fait. Parce que, bon, la commune met à notre disposition des locaux, c'est très bien. Hein. Mais après, notre village, s'il n'y a pas les mounaks, si on n'a pas l'atelier de mounaks et compagnie qui est ouvert, ben, vous savez, on n'a plus de boulangerie, on n'a plus de pharmacie.
C'est important ce que vous dites, parce qu'en fait, cette réflexion, elle est beaucoup plus large. D'abord, ce qui se passe à Campan avec les mounaks, ça se passe dans d'autres lieux, dans d'autres régions, avec d'autres traditions. C'est aussi cette question-là de comment on garde une vie, alors une vie sociale, et puis... une vie aussi de service et de tradition dans des petits bourgs, dans des petits villages. Cette question-là, elle est importante à Campan et bien au-delà.
Pour caricaturer, je dirais presque que les mounaks chez nous, c'est les centons de Provence. Quoi.
Ouais.
Ce sont les centons de Pyrénées,
avec
toute cette histoire. Vous avez parlé de Mariol, il faudra que vous nous parliez de lui aussi.
Vous parlez de centons, à l'atelier des petites mounaks, à Mounak et compagnie, là où nous avons la salariée, nous avons une personne qui est venue nous commander les mounaks de toute une crèche. Nous avons fait les rois mages, Marie, petite, petits de 28 cm.
28.
Voilà, et nous avons fait toute une crèche. Magali a fait l'âne, le bœuf, le dromadaire, le chameau. Voilà, les santons et les rois mages, où nous avons fait une magnifique tenue, des tissus brillants, qui collaient le plus possible. Donc effectivement, et tous les ans, elle fait sa crèche, elle nous achète des petites mounaks. Voilà. Et elle a tué les petites mounaks que nous avons repris il y a 7 ans avec Marie-Jo, sur la demande de la mairie, puisqu'il avait fermé et ouvert tout l'été, tous les jours de la semaine, pour essayer de, voilà, de faire vivre Campan. C'est quasiment le seul commerce tout l'été qui est ouvert tout le temps.
Mais oui. Oui, vous parliez d'une époque, au début de l'émission, où il y avait beaucoup de commerce à Campan. Oui. Aujourd'hui, c'est un petit bourg, Campan. Oui. Et en fait, ça vit notamment grâce aux personnes qui passent, les touristes. Mais encore faut-il qu'ils s'arrêtent.
Qu'ils s'arrêtent
parce qu'il y a des Mounaks.
Parce qu'il y a des Mounaks.
Ah, oui, il y a un musée aussi. Bon,
et le musée qui est vraiment très...
Le musée qui est très bien.
Très bien, oui. Oui.
La notoriété de ces Mounaks, elle va jusqu'où? On parle d'elle à l'international, je
elle
suppose.
Elle va... Bah, écoutez, il y a un couple qui est au Japon, qui est à Kyoto.
Oui, c'est
puisque toi, j'ai mon beau-fils qui est marié à une Japonaise. Et quand ses beaux-parents sont venus à Campan... Ils étaient d'ailleurs très très contents de visiter Campan. Ils ont été très touchés et ils ont vu Paris. Mais Campan, ça leur a plu par l'histoire de Campan. Et voilà, ils ont dit c'est vivant Paris, les monuments, la Tour Eiffel, on la voit partout.
C'est surfait. Mais, alors que Campan.
Mais Campan, voilà, ils ont visité l'église, on leur a raconté l'histoire de. Puisque bon, l'histoire de Campan, ils étaient très touchés, ils ont trouvé ça. Voilà. Et donc, mon beau-fils nous a demandé de faire des Mounaks sosie, puisque nous faisons, à l'atelier des petites Mounaks, à Mounaks et compagnie, des Mounaks sosie. Et donc, nous avons fait le couple japonais avec le yukata, les chaussures en bois.
Donc,
lanières.
Vous les envoyez, vous les fabriquez, vous les
voilà.
envoyez.
Donc,
les Mounaks s'exportent.
Ah oui, voilà, s'exportent.
On a des demandes
France,
d'un peu partout
ça,
en France.
En France, c'est sûr, oui.
Puisqu'elle peut faire aussi des grandes Mounaks, taille humaine. Avec des visages ressemblants et les tenues qu'ils nous souhaitent. On a des demandes. On a fait un moine pour le visage du village de Fourcès dans le Gers. Ils nous ont demandé un moine.
Alors on pourrait peut-être avoir une Mounak de Gérard Crozat. Voilà.
Voilà.
Pourquoi pas. On arrive au.
Nous avons déjà
fait
une tenue de diacre.
Je crains qu'on la vole.
Nous avons fait une tenue de. Nous avons fait un diacre, Monsieur Gardère, qui est
Gardère. Ah bah oui, le diacre Pierre Gardère, bien sûr.
Nous l'avons fait à Mounak.
Voilà. Alors, on arrive au terme de cette émission. En tous les cas, merci à vous, Claudine Pécondon et Marie-Josée Thomas, pour cette histoire des Mounaks. Alors, il y a un site internet, Mounak au pluriel, mounakecompagnie.fr. Alors, on y trouve l'histoire des Mounaks, de belles photos de Mounaks que vous avez, déjà créées. Mm-hmm. Et puis, le contact, parce que, voilà, si on veut vous appeler, commander une Mounak. Mais enfin, le mieux, c'est quand même de venir voir, ce musée, cette exposition. Et puis, je vous assure que vous n'allez pas être déçus. Puis alors, pour les auditeurs qui sont un petit peu plus loin dans la région Occitanie, eh bien, si vous passez dans les Hautes-Pyrénées, surtout rendez-vous à Campan pour visiter ce musée. Et puis, vous pourrez pousser un peu plus loin pour visiter les magnifiques sites touristiques des Hautes-Pyrénées. Voilà pour cette émission Culture et Patrimoine. Gérard Crozat, vous voulez rajouter quelque chose avant de nous quitter?
Dire juste que oui, c'est une belle occasion, lorsqu'on a des enfants, d'aller visiter le musée des Mounaks aussi.
Exactement. Je l'ai fait et je dois vous dire que l'accueil y est très chaleureux, que les personnes rencontrées à Campan, les Campanois et Campanoises, prennent le temps de nous expliquer leur histoire. Et puis, il y a ce musée, hein, le Carrefour du Patrimoine, qui est un musée passionnant pour les petits et les grands. Voilà pour cette émission hebdomadaire qui marque la fin de semaine. Et nous retrouvons le mois prochain, Gérard, Andy, pour une nouvelle émission. La semaine prochaine, c'est David Torchala qui sera aux commandes de L'Heure de Pointe. Très bon week-end à tous.
L'Heure de Pointe, Anne-Rose Jankovic.